bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Merci Hélène Roussel, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. Avec Leïla Kadoukoudadi, Daniel Morin, Albert Abdoul, ouais. Jérémy Crédville, tout à l'heure Tanguy Passereau et nos invités Camille Chamou et Frédéric Denis-Garcia.
Bonjour.
Merci de venir. Alors que normalement, vous avez d'autres choses à faire, hein, puisque ce soir, vous serez au Théâtre du Rond-Point pour deux pièces, Retour et Le père de l'enfant de la mère. C'est pas une vanne, le titre, loin de là, bien que... Pendant cette pièce, il se passe beaucoup de choses très surprenantes, à la fois dramatiques et à la fois extrêmement drôles. Comment qualifier tout ça? Globalement cynique, humour noir?
Moi, je dirais pas cynique.
C'est de l'humour norvégien.
Ouais, ah bah oui, voilà. On n'a pas assez voyagé pour savoir ce que c'est.
C'est une niche, hein. C'est une niche, l'humour norvégien.
Non, c'est que c'est de l'humour de grande identification. Donc il peut y avoir des choses, comme ça parle à chaque fois d'un père, d'une mère et d'un enfant.
C'est le trio, c'est ça.
C'est le trio père, mère, enfant dans les deux pièces.
Ce sont deux pièces d'une petite heure chacune, mais qui...
Un peu moins. 50 minutes chacune. Attendez les gars, vous serez libérés hyper tôt. Et vous pourrez manger au Resto du Rond-Point. Moi je sais vendre. Hein.
Mais qui s'enchaînent extrêmement bien, parce que dans la première pièce... c'est un couple qui vit un drame, en l'occurrence, ils perdent leur enfant, leur fils, qui lors d'une case verte, ça commence comme ça. Voilà, parce qu'il y a plusieurs occasions pour le perdre, en fait, l'enfant. Ouais. Parce que l'enfant va revenir, d'où le retour, sauf qu'il va à nouveau mourir, et puis il va à nouveau revenir, d'où le S à retour,
voilà.
Avec des décès réguliers de ce même enfant.
C'est des disparitions qu'on pense être des décès, et à chaque fois il revient.
Et progressivement, un intéressement des parents qui a pleuré de rire pour le coup parce que quand il revient au bout de la 10e fois
parce qu'on s'habitue, on s'habitue,
ça c'est très norvégien.
L'enfant venu du froid quoi.
Et dans la deuxième partie, là c'est une petite fille qui vient de naître et là c'est un combat réel entre père et mère pour avoir l'amour définitif de ce petit enfant. On va en parler plus longuement dans quelques instants, mais d'abord des questions concernant nos invités, savoir si vous avez un tout petit peu travaillé cette émission,
donc
de fainéant, quel film français culte Camille Chamou a-t-elle regardé en cachette à la télévision?
Histoire d'eau.
C'était son éveil. Alors c'était un éveil érotique.
Ouais, c'est vrai, mais c'est
Histoire d'eau. Histoire d'eau.
Dirty Dancing.
Je crois pas que ce soit passé à la télé, Histoire d'eau.
Emmanuel.
Non.
Un éveil érotique.
Non, mais pour moi, hein. Après, c'était pas du tout.
La grande vadrouille.
Quai des Brumes.
Bah voilà. Alors, c'est plus dans cet esprit-là.
D'accord. Si Joe Cornio.
C'est un film grand public qui a été un début d'éveil érotique.
La Boum.
Non, rappelez-vous de l'affiche. L'affiche, c'était une comédienne seins nus, je crois.
Ah, je les ai toutes eues, celle-là.
En tout cas, la comédienne seins nus est vraiment une part mythique du film.
Voilà.
Un truc avec Brigitte?
Non.
Bardo?
L'année des méduses.
Oui,
joli.
Valérie Capreschi. Ouais.
Mais oui.
Toi, t'as collectionné les affiches.
Comment vous savez ça? C'est quand même génial. Oui, c'est votre métier.
Il a lu tous les SOS.
C'est pas génial.
J'ai une aventure avec Bernard Giraudot.
C'est gênant, c'est très gênant.
Il a une aventure avec une méduse, surtout.
Mes parents étaient super gênés. Mais je vois très bien le salon avec ce truc. Et la fille est tout le temps à poil et frotte un peu ses seins sur tout le monde.
C'est vrai, c'est vrai.
Vraiment,
pas du tout norvégien, ça. C'est pas du tout norvégien.
C'est plus cinéma années 80, en fait. Et voilà, et je me souviens qu'à un moment donné, ils ont éteint et je suis revenue et j'ai rallumé. Et j'ai regardé toute la fin, et je me souviens qu'à la fin, elle pousse Bernard Giraudot dans la flotte.
Vous vouliez savoir ce qu'on peut faire avec ses seins, petite fille?
Ouais.
Sûrement.
Très, très probablement.
Pour l'anecdote, savez-vous que Valérie Capreschi, à cause de ce film, a refusé de faire L'été meurtrier?
Ah bah non.
Parce qu'elle ne voulait pas être à nouveau seins nus. Elle a dit, ça va.
Ah oui, je la comprends.
Ça va, les seins d'une fois, ça va.
Je les ai montrés une fois, mais pas deux fois. Et dommage, oui, parce que je pense que L'été meurtrier était... beaucoup plus culte, ça. Avec tout le respect que je dois à l'équipe de l'année des méduses.
Ouais. Si vous nous entendez. Ouais.
Hey, les gars, respect. Comment vous soyez respect.
Comment Frédéric Bellier-Garcia appelle-t-il sa maman, Nicole?
Maman.
Garcia.
Oh,
non.
Maman.
Non.
Roger.
Non.
Je sais pas, je tente des trucs.
Roger, ça serait drôle, mais non.
Sa maman.
Ouais. C'est un petit surnom mignon.
C'est surprenant.
Surprenant.
La mère.
Ah bon? Non.
La direction.
Non. La direction.
Mère. Ouais, Jacopin, juste mère. Sa mère a signé carte postale comme ça, la direction.
La direction, non. Ouais.
Mère, madre. Rodi,
non, madre, non.
Madame mère.
Non.
Mamoun.
Non, oh, c'est mignon.
Non. Non. Il appelle par son prénom.
La reine mère.
Exactement.
Ah ouais, tout simplement.
Vous appelez votre maman Nicole et pas maman.
Oui, c'est une sorte de génération, je pense, un peu. Elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 18 ans, donc peut-être qu'il fallait aussi une sorte de distance. Non, non, de. Voilà, sans doute, des générations un peu, oui, post 68.
68 ans,
voilà, une sorte de. Allez, neutralité, pas, d'affection. Allez, pas de chichi.
Pas de maman entre nous.
Un petit Nicole, et ça va faire.
Génial.
J'adore votre maman.
Pour quelle. On est plusieurs, bon, on est plusieurs sur ce créneau-là. Mais... pour quelle série qui a connu un grand succès, Camille Chamou a-t-elle passé des essais ?
Bureau des légendes.
Non.
Un gars et une fille ?
Oui.
Ouais. Eh oui.
Ouais. Eh, c'est le premier casting de toute ma vie.
Ça va être vous, Jean Dujardin, alors ?
Ouais, c'est dommage, hein. Je suis passée à ça de la carrière de Jean.
C'est fou, ça, l'Oscar.
C'est vrai, c'était affreux. C'était vraiment mon premier essai, quoi. Je devais avoir 19 ans, quoi. Et on m'a foutu un carré au sol. Et on m'a dit, et vraiment dans le carré, il y avait une directrice de casting qui me disait « Ok, et maintenant, tu pousses une poussette, vas-y, vas-y !» Mais j'étais dans un tout petit carré. « Ok, et maintenant, t'as peur. Oh là là, il y a quelqu'un qui arrive, vas-y, improvise !» Et j'étais vraiment dans un carré de 50 cm sur 50 cm, et je me suis dit « Mais c'est un cauchemar !» Et je me souviens hyper bien que j'étais vraiment très très contente d'aller à ce casting, et je suis sortie en larmes en me disant « Bon, laisse tomber, c'est pas grave. » Donc bon, mais je me suis toujours dit « C'est mon truc, la scène, c'est mon espace, et personne m'en privera. » Et je sais que de toute façon, pour arriver sur scène, tout le monde peut arriver sur scène. N'importe qui peut arriver
et
sur scène.
Quelle est pour vous la frontière entre croire en soi et la suffisance ou la prétention ? Parce qu'il faut, il faut une dose de confiance pour dire j'y vais.
Mais en fait, c'est la sensation que tu travailles énormément. Ouais. Pour fournir un truc dont tu ne sais pas si les gens aimeront ça ou pas. Mais en tout cas, moi, je sais que la scène, c'est un territoire qui est le mien, quoi. En revanche, effectivement, les castings, c'est le rapport à l'image, à ce que tu peux faire au cinéma ou à la télé, etc. Et ça, j'ai vraiment mis beaucoup plus longtemps à avoir confiance en moi.
Quel sport Frédéric Bellier-Garcia pratiquait-il adolescent ?
Tennis.
Tennis ?
Non.
L'équitation.
Ping-pong. Athlétisme.
Sport de balle.
Basket. Rugby.
La boxe.
C'est bon.
Non, c'est trouvé. Comme il dégolait.
C'était deuxième là. Troisième ligne.
Alors c'est...
Rugby.
Moi, j'avais une passion d'un gars du Nord pour le rugby. Voilà. Non, on jouait en banlieue à Puteaux. Okay. On descendait parfois une fois par saison au sud de la Loire où on prenait 40 points. Oui. Voilà, mais on était heureux.
Oui, parce que vous dites ce qui vous a poussé vers le rugby, c'est plutôt le sens de la fête.
Oui, c'est vrai. Il y avait une sorte d'ambiance, comme on dit, du rugby, quoi, de troisième mi-temps, d'ambiance.
Et les filles.
Une virilité sympathique.
qu'est-ce que ça vous a apporté comme valeur, le rugby ?
Oh, je sais pas si ça a apporté beaucoup de valeur. Oui, une sorte de
la violence quoi.
Ouais, une sorte de violence sympathique. Une autre sorte de violence sympathique.
Je m'en sers tous les jours.
Le rugby, on rejoint à ce moment-là aussi les métiers du spectacle et du théâtre. On ne peut rien faire sans être une équipe, sans qu'il y ait du monde.
Oui, c'est pas un sport individuel. Sans doute, après ça, sur les spectacles comme ça, mais aussi sur les grands opéras, tout ça, ça laisse un sens du collectif, comme on dit, du collectif et un sens non
du partage,
de l'envie d'être ensemble sur des coups, quoi.
Pourquoi, selon Camille Chamou, mettons des photos de nos enfants sur les écrans de nos portables ?
Pour ne pas les oublier.
Exactement.
Moi, je trouve que c'est un bon moyen mnémotechnique. C'est pas mal de les avoir sous les yeux.
C'est sûr. Ah, non, mais c'est la pure vérité, quoi.
Vous dites c'est un pense-bête.
Bah évidemment.
C'est méchant.
Non, mais
c'est bon.
Non, mais c'est vrai. C'était un truc. C'était carrément. Je l'avais mis dans mon spectacle parce que je trouvais que c'était vraiment une vérité absolue, quoi. Je l'avais réintégré dans l'esprit de contradiction parce que vraiment, le jour où j'ai eu un enfant, très très vite, j'ai mis sa photo pour me souvenir que j'avais un enfant parce que j'avais vraiment des phases de trous. Des moments dans la journée où t'oublies et là, hop, tac, le portable.
Ah, bah oui, il faut que je rentre.
Ah, la crèche. C'est ça.
Il est 22h.
C'est ça qu'il fallait que je fasse à cette heure-là, bien sûr.
22h30.
Quelle idiotie.
Elle est folle, elle est dangereuse. Dernière question concernant Frédéric Bellier-Garcia. Quel métier a-t-il toujours eu en sainte horreur ? Il est terrorisé par un métier, lequel ?
Les cordonniers.
Non.
Les dentistes.
Non.
Les douaniers.
Ah, non.
Policier,
gendarme,
croque funèbre.
Croque
funèbre. Médecin légiste.
Terrorisé par un métier.
Terrorisé par un métier.
Non.
Maintenant, il a enseigné.
Taxidermiste.
Non.
Inspecteur des impôts.
Non. un métier qu'il ne pourrait jamais lui pratiquer tellement il n'aime
comédien
pas
comédien.
Exactement.
Ah bah. Simple. Je voyais pas où ça allait.
Il y avait acteur porno, mais on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Mais là, en l'occurrence, c'est comédien.
Oui, on a eu un mail.
Vous dites, j'ai toujours eu une sorte de désir.
Oui, bah, sans doute. Enfin, le théâtre comme cinéma, ça m'a pas effleuré l'esprit jusqu'à 30 ans. Mais quand à 30 ans, je m'y suis mis à faire du théâtre, la mise en scène de théâtre. C'est vrai, c'était toujours accompagné d'une sorte de désir pour le comédien ou du comédien ou une sorte d'envie, mais d'envie qui était toujours barrée par une sorte de sainte frousse, quoi.
Mais c'est un vrai trac ou c'est
un trac qui rend la chose pas envisageable, quoi. Voilà. Non, mais parfois, par exemple, à l'opéra, quand on est obligé de montrer aux chanteurs comment un peu on envisage la chose, ça j'ai un grand plaisir. Et les gens trouvent que je suis royal.
Ouais. Un bon acteur de répète.
Je suis un grand acteur de répète, mais qui ne passera jamais.
Très bien. Alors pour l'instant, vous avez distribué les rôles. Vous l'avez donné à Jean-Charles Cliché, avec lequel vous avez l'habitude de travailler, Dimitri Doré. Et donc Camille Chamou, on va commencer par Retour, cette pièce, puisque c'est dans ce sens-là que vous l'interprétez, cette pièce avec ses parents, elle est plus légère dans un premier temps, elle s'affaire aux choses de la maison, lui il est plus rêveur, là on a vraiment l'impression d'être dans un film de Bergman, il est à la fenêtre, il observe l'extérieur, il ne sait pas ce qui se passe, il voit passer des voitures, il se dit ça vient chez nous, ça vient pas chez nous, qu'est-ce qui se passe, comme si la vie était suspendue à ce qui pourrait arriver de l'extérieur, rien ne peut se passer à l'intérieur, ils attendent, et ils attendent le retour d'un enfant qui ne revient pas, qui est mort lors d'une classe verte. On n'a même pas retrouvé le corps, on a quand même fait une cérémonie, un enterrement, et on vit donc le deuil de cette famille. Et là, on se dit « Waouh !» Ça commence fort, c'est-à-dire que dans les 5 premières minutes, des parents qui perdent un enfant, là on a tous de près ou de loin, avec ou sans portable, avec ou sans enfant, on se sent concerné par cette tristesse, ce désarroi. Et puis on sonne à la porte, c'est l'adolescent qui revient, et qui a faim. Comme tous les adolescents.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est son unique motivation pendant toute la pièce.
Il ne revient que pour manger.
Ouais, il faut qu'il mange.
Il revient, il mange. Et là, le couple est pris un peu à dépourvu. Ils ne savent pas. D'abord, rien n'est prêt. Il n'y a que du réchauffé. Il réchauffe. Et là, on commence à se dire, on passe de l'autre côté de la ligne. C'est-à-dire qu'il lui donne à manger quoi ? Le gâteau aux amandes qui a servi à l'enterrement.
Ouais. Oh, le gâteau de l'enterrement. Et oui, c'est ça. C'est le premier moment de la pièce où les gens se disent il y a un petit décroché. Ah oui, c'est un peu drôle.
C'est un signal où on peut se permettre de rire. Avant, on n'ose pas.
Mais je pense que c'est un jeu aussi qu'a Brad Bird avec son propre théâtre.
L'auteur
Brad Bird, d'écrire. Il a voulu écrire une pièce où pendant les 10 premières minutes, les gens dans la salle se disent « Oh purée !»
Ils sont gênés.
C'est une pièce norvégienne. Et là, on va prendre cher. Ouais. On va prendre cher. Oui, effectivement, il y a le père qui regarde par la fenêtre un chien qui aboie au fond dans la neige. Et ça va être dur.
Une voiture qui fait demi-tour.
On sait pas, on imagine un fjord au-delà.
Ça sent le partenariat France Inter.
Ouais, pendant les 10 premières minutes.
Il est complètement dépressif et elle a ras-le-bol. Et tout d'un coup, il y a l'apparition. Cette apparition. Qui vient forcément les mettre en joie de redécouvrir leur fils parce qu'il a disparu, donc il savait pas vraiment s'il était mort, pas mort. Enfin, c'est difficile de faire son deuil dans ces circonstances. Et puis là, il y a tout un enchaînement complètement comique et glauque à la fois.
Comique et glauque, et en même temps un enseignement. On s'habitue à toutes les horreurs.
Effectivement, ça rit énormément au bout d'un moment de la pièce. Il y a vraiment un déchaînement. Même le premier soir, on s'est dit. Ah ok. Ah ouais, moi j'étais hyper contente de faire mes premières armes dans le théâtre public et j'ai fait Marthe Mercadier et de retour en fait, j'avais pas compris, c'est-à-dire que j'ai vraiment pensé que Fred Belli-Garcia me mettait en scène dans un truc un peu tu vois, chargé et tout, et j'ai fait, ah non, c'est marrant, tiens, c'est Louis de Funès, en fait.
Effectivement, on entend les gens qui
se progressent. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que dans le fond, ça raconte un truc. Il y a une marge d'interprétation énorme, c'est-à-dire que on va pas dévoiler tout ce qui se passe dans la première pièce courte.
Il y a plusieurs retours
et il y a plein d'interprétations possibles et notamment le fait que l'enfant c'est la priorité absolue au début et puis à un moment donné il partira, il disparaîtra et il faut. Enfin, ça pose vraiment la question de la reconstruction du couple après le départ de l'enfant et tout ça. Il y a plein de degrés de lecture. il y a des spectateurs qui nous faisaient des théories, on était là, waouh.
Non, non, mais ceci dit, c'est Guillaume Gallienne qui me ramenait à nos bases latines en m'expliquant dans une discussion entre copains que l'éducation, étymologie de éducation, c'est ex ducere, c'est conduire vers l'extérieur. Donc ouais, c'est amener l'enfant à partir et à quitter le foyer.
S'en débarrasser.
Voilà. Et puis, il y a, on peut aussi se poser la question de savoir s'ils ne sont pas en train de fantasmer ces retours et s'ils ont juste pas aussi pété un câble au premier décès de leur enfant. C'est extrêmement fort, c'est très bizarre, hein. Frédéric Bratberg, je sais pas quelle vie il a eu lui avec ses parents, mais enfin, il faut dire qu'avant d'écrire ça, il a dû passer par des fourches codines. Et alors le père de l'enfant de la mère, là c'est le fight, c'est le combat entre le père et la mère, qui aura le plus gros câlin, le plus beau sourire, et qui aura l'amour de l'enfant unique.
Oui, c'est ça. Bah, c'est une sorte de, une manière de s'attaquer à cette nouvelle famille, le père, l'enfant, le père, la mère et l'enfant, voilà, censément plus cool, généreuse, qui est loin des fardeaux chabroliens et tout. Voilà, ce petit cocon, cette petite trinité, où le père est là, en l'occurrence, le père s'occupe de l'enfant plus que la mère.
Il est très présent.
Il est très présent. Et là-dedans, va démarrer un combat pour l'amour de l'enfant, qui mérite l'élection de l'enfant. Et le père, oui.
Qui fait la lecture de l'histoire,
qui fait la lecture, a droit à la tendresse de l'enfant, c'est tout ça. Et dans ce combat-là, le père, perd pied un peu, quoi. Mm. Ça pourrait être une pièce, c'est une comédie, mais ça pourrait être une pièce qui s'intitule La tristesse des pères. Voilà.
Et c'est attention, c'est une lecture très particulière, oui. La pièce.
C'est un projet masculin.
Vraiment, toutes les répétitions, avec l'assistante et la collaboratrice de Fred, Caroline Gons, et moi, on était là. Vraiment, on a décidé donc d'adopter le point de vue du père, en fait. Hein, c'est bien ça. Soyons très clairs. Et Fred nous a répondu, oui, mais enfin, la pièce s'intitule Le père l'enfant de la mère, donc ça parle de ça. Et vraiment, on sentait que ça charriait beaucoup de choses. Ouais.
Et on voit là aussi comment l'amour peut s'étioler au fur et à mesure du temps qui passe.
Tout d'un coup, le couple n'existe plus. C'est le couple que tu formes avec ton enfant qui prend le dessus. Et ça, mène finalement, cet excès d'amour mène à la pire des violence pour ce couple et aussi pour cet enfant, parce que en voulant l'aimer ainsi, ils le rendent une sorte de danger dans une relation qui n'a pas lieu d'être, en fait.
Ça, moi, je trouve que c'est exactement ça, et que cette pièce, elle reflète un truc extrêmement moderne et assez politiquement incorrect, parce qu'on aime bien dire que la famille, c'est
sacré.
Et que c'est le plus joli endroit de la société et de la vie. Et que je trouve que la famille moderne, aujourd'hui, c'est vrai que père, mère, enfant, c'est un triangle complètement obsessionnel. Ouais. Où tout le monde veut effectivement l'amour absolu de l'enfant et l'épanouissement de l'enfant et les yeux de l'amour de l'enfant. Mmh. Et qu'il y a quelque chose de le couple est vraiment laissé de côté. Ouais. Moi, vraiment, en le jouant, je me dis, mais c'est épouvantable. Il y a des moments où j'ai des petites décharges. Tiens, c'est marrant.
Phrases dites à l'enfant, ne serait-ce que dire tu veux une histoire ou tu veux que papa te raconte une histoire. Et d'un coup, ça change totalement l'axe et la connotation. Retour et le père de l'enfant de la mère, les deux textes écrits par Frédéric Bratberg, les deux mises en scène par Frédéric Bellier-Garcia et les deux pièces jouées par Camille Chamou, notre invité, mais également Jean-Charles Cliché, le papa, Dimitri Doré qui fait à la fois d'ailleurs et l'adolescent et la petite fille. On parlera aussi des effets de mise en scène dans quelques instants. Ça se joue à partir de ce soir jusqu'au 30 juin, jusqu'à la fin du mois de juin, donc au théâtre du Rond-Point. Maréchal Ganache, succès annoncé.
Ah, succès garanti, Nagui. Mon cher Nagui, compte tenu des états de service épatants dans les plus hautes instances théâtrales, scénaristiques et rugbystiques de Bellier-Garcia Frédéric, complément, monsieur, et des prestations remarquables de Madame Chamoux, née sous Giscard. En français, on prononce toutes les lettres, j'ai dit Chamoux, cessez de me chercher des pouks dans la tête. Alors, où en étais-je? Oui, cher Nagui, vous avez admirablement parlé de ce diptyque formidable, aussi n'ajouterai-je pas grand-chose à votre dithyrambe, si ce n'est pour dire que, si dans l'approche de l'écriture de Frédéric Bratberg, l'auteur, comme on l'a cité, on peut voir comme une filiation retorse, oui, il est retors.
Oui,
avec ses illustres prédécesseurs scandinaves, Ibsen, Strindberg, Lars Norén, tous fascinés par les affres parapsychologiques de la cellule familiale. Moi, ça m'évoque Beckett, Ionesco, pour qui il fallait, sur un texte burlesque, un jeu dramatique, et sur un texte dramatique, un jeu burlesque. Ah, 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 Nagui, ça vous la coupe, hein. Il n'y a pas que sur le théâtre des opérations que j'ai traîné mes Rangers. Et il serait temps que Gare Saint-Jérôme fasse appel à mes compétences pour relever le niveau déplorable du casque et l'enclume. Ce qui me touche aussi dans le théâtre de Bradberg, c'est cet art de la fugue. De toute façon, on n'a pas parlé, c'est la construction, les dialogues, les répétitions, ouais, d'une grande complexité où le thème fuit d'une voix à l'autre. Et voyez-vous, la fugue, du latin fuga, la fuite, me rapporte aux années où moi aussi je fuyais. Je sais, pas autant qu'aujourd'hui, mais je fuyais les Viettes. C'était en 1954.
On va pas le temps, Michel.
Respectez mon passé. Après mon évasion du bagne de Gang Bang Coit, moi aussi, j'ai fait mon...
Il est nouveau celui-là.
Oui, j'ai été de bagne en bagne. Ouais. Gang Bang Fok maintenant. Moi aussi, j'ai fait mon retour dans mon foyer en deuil. Mais entre-temps, mon épouse, Edmond, me croyant mort, s'était consolée avec mon aide de camp, le jeune ding 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 ding, et m'avait fait un enfant dans le dos. C'est comme ça que je me suis retrouvé, moi aussi, père de l'enfant de la mère. C'est vous dire si pour moi aussi, l'amour pour un marmot fut une chose aussi problématique qu'épuisante, pas aussi épuisante tout de même que les effets de la mutilation joufflue qui m'empêche de rester assis parmi vous plus longtemps.
Merci.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Retour suivi du père de l'enfant de la mère, c'est deux pièces jusqu'au 30 juin à 21h au Théâtre du Rond-Point avec Camille Chamou, Jean-Charles Cliché, Dimitri Doré, mise en scène par Frédéric Belli-Garcia. Ces deux pièces jouent forcément l'une à la suite de l'autre, c'est comme ça que l'auteur les a voulu?
Non, non, c'est deux pièces indépendantes,
c'est vous qui avez choisi
les pièces en un acte, et c'est moi, oui, qui ai choisi. Un peu comme c'est des sortes de longs sketchs, ou de longs un peu sur le mode de Risi ou des Italiens, ou de même d'une certaine manière Moretti, quand il additionne sur un même sujet, une manière de percer, de forer un sujet.
Oui, les deux, on se prend en commun, voilà, papa, maman et l'enfant.
Comment l'enfant tord le couple d'une manière ou d'une autre.
Et comment vous les avez découvertes?
C'est les éditions de l'Arche, qui sont un grand éditeur de théâtre à Paris, qui m'envoient souvent quand ils ont des pièces, disons saugrenues ou des pièces étranges.
Ah, vous êtes Monsieur Saugrenu pour la mise en scène.
J'aime pas trop ce terme. En plus, donc, Monsieur, oui, ils envoient quand ils sentent quelque chose. Mais
on a un truc bizarre, c'est pour lui.
On a un truc bizarre, c'est pour lui. voilà. Un goût d'un sort de théâtre, pas forcément absurde, mais étrange où le oui, où le sens est flottant et qui interroge tout le monde.
Quand Camille nous dit que des spectateurs ont chacune leur interprétation aux sorties de la pièce, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une pièce de théâtre et à un spectacle de dire moi j'ai pas vu ça, j'ai vu autre chose.
Ah, souvent, oui, ça j'adore ça. Et d'ailleurs l'auteur Bradberg, qui comme vous le disiez au départ un compositeur, à chaque fois je l'ai interrogé sur le sens d'une des deux pièces ou d'un moment ou quoi, je dis moi j'ai composé, c'est comme une fugue, vous demandez pas le sens de la fugue, vous la jouez et puis après les gens ressentent des choses différentes à ça.
Albert.
Oui, mais pour les comédiens, je voulais savoir comme justement l'art de la fugue, la même phrase est reprise presque une dizaine de fois, certaines des phrases, ouais, par les deux comédiens. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de...
Mais pas avec la même musique.
D'embrouillement.
C'est atroce à apprendre.
Ça doit être très dur.
Mais par contre, c'est extrêmement jouissif une fois que vous le maîtrisez. Mais comme les...
c'est une variation, c'est pas tant une reprise, parce que le jeu évolue aussi.
Ouais. Variation autour d'un thème.
Ouais, c'est pas collé.
Exactement,
ouais.
Exactement. Et du coup, ça exige une grande virtuosité, mais faut pas rester collé. Bah, c'est ce qui est pénible avec les variations, d'ailleurs. C'est comme en musique, j'imagine. C'est qu'il faut pas rester sur la virtuosité de posséder déjà les mini-variations. Faut être traversé par un truc après. Mais c'est moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était le texte le plus difficile à apprendre.
Parce que ça, c'est extraordinairement original.
Vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement épineux.
Retour et suivi du père de l'enfant de la mère, c'est au Théâtre du Rond-Point jusqu'à la fin juin. Voici Jérémy Crépy.
Les trucs et astuces de Jérémy Crépville pour être un bon écolo. Voilà, vous devez. Bon, rien ne rime.
J'ai rien compris.
C'est des trucs et astuces pour être écolo.
Tu fais un jingle en
fait. Bah écoute, j'ai pas de budget. Bon, ce matin, j'ai décidé de vous filer mes gestes simples pour être un bon écolo. Ce sera une liste non exhaustive. Ouais. Mais comme je sais pas l'écrire ni le dire, j'ai pas noté exhaustive. Pourquoi je fais ça? Parce que le premier parti politique, c'est les 18-34 ans, c'est EELV. EELV qui veut dire Europe Écologie Les Verts et non pas Elle éternue la vilaine. ELV, c'est également quatre lettres contenues dans le prénom Evelyne. Mais on s'égare. Bon, En vrai, le premier parti chez les 18-34, c'est l'abstention. Un geste écolo, parce que qui dit pas de bulletin dit pas de papier utilisé, mais je vais pas en dire plus, parce que si j'ai bien compris, l'abstention chez France Inter, c'est comme la puberté chez Christian Quesada, on en raffole pas trop. Franchement, c'est hyper compliqué d'être écolo. Déjà, on dit tofu ou tofu?
Je sais pas, j'en mange
tofu.
Pas.
Ouais, bon, on dit veggie ou veggie? Et on, sait pas, on dit Nagui.
On dit Nagui. Nagui,
si tu veux. En tout cas, la principale cause du dérèglement climatique, c'est les émissions de CO2. C'est pas bon du tout. Tiens, bah, comme les émissions d'H2O, finalement, c'est pas bon du tout. Blague de niche. En France, les transports domicile-travail émettent beaucoup de CO2. On nous conseille de prendre les transports en commun ou le vélo pour polluer moins. Moi, je dis aller plus loin en optant pour le tandem, qui est finalement un vélo en commun. Ou mieux. Ne travaillez pas, un trajet domicile-domicile, c'est la garantie d'une empreinte carbone nulle. Je félicite donc tous nos auditeurs qui écoutent la radio un mardi à midi, n'essayez pas de nous faire croire que vous avez un boulot. Deuxième cause d'émissions de CO2, la consommation énergétique des bâtiments résidentiels à cause de la mauvaise isolation, du chauffage et des bains. Oui. Les SDF, c'est sale? Oui, mais c'est sain. Ce matin, j'en ai vu un encore plus écolo que Mélanie Laurent et Pierre Abironi. Hein. Lui, tu sens qu'il protège les animaux, une famille de rats, une colonie de puces, une centaine de cafards et un couple de pigeons qu'il laisse vivre sur son corps. Si ça, c'est pas de l'engagement, merci Daniel Morin. Comme Daniel, pensez à économiser l'eau, hein, optez pour la douche plutôt que les bains et des douche courte, hein, si c'est pour rester 30 minutes sous la flotte, prenez un bain. Geste écologique tout simple, uriner dans la douche. Douche avec un D comme Dorian. Je précise parce que si vous avez entendu bouche au lieu de douche, ça reste écologique, mais c'est dégueulasse. Deuxième précision.
Ça dépend.
Deuxième précision, uriner dans la douche quand vous prenez une douche. Voilà. Non, je tiens quand même à préciser.
Oui.
Autre geste accessible.
Quand c'est quelqu'un d'autre qui est en train de la prendre, faut pas y aller.
Tu peux, mais faut bien.
Si c'est un ami, ça va.
Oui. Autre geste accessible. Pensez à éteindre vos appareils en veille. Et à ce sujet, j'ai une pensée émue pour Vincent Lambert. Évidemment. Oh, on l'embrasse. Évidemment. Bon. Consommer local et de saison, hein, pour éviter les transports des produits exotiques. On est en France. Donc, au printemps, eh ben, on mange des artichauts. En été, des poivrons. En automne, des courgettes. Et en hiver, on a le droit au navet. Donc, on va en famille voir le dernier film de Christian Clavier. Après, quand on dit, on l'embrasse également. Après, quand on dit consommer local, on ne parle pas que de nourriture, hein, par conviction écologique. Par exemple, Nagui a arrêté les Roumaines et les Thaïlandaises, dont le bilan carbone était très mauvais, hein, pour passer à une consommation 100% française. Mmh. Et aujourd'hui, quand il rentre du bois, il peut fièrement déclarer la même chose que moi quand je sors de chez Naturalia. C'est plus cher, mais j'ai bonne conscience. Le geste qui reste le plus écologique, c'est ne pas faire d'enfant, hein, et c'est souvent quand vous en avez un que vous dites, putain, j'aurais dû être écolo! Après, si vraiment, vraiment, je l'embrasse. Après, si vraiment, vraiment, vous voulez être le plus écolo possible, suicidez-vous et faites ça sous un avion. D'ailleurs, pour vos vacances, préférez le train à l'avion. Et à ce sujet, on a le retour de Julien Gorret avec son tube Paris-Sarcelles.
Oui,
c'est vrai que ça te ferait plaisir, Léa.
Oui.
Il fait Julien Doré, tu vois.
Tu vois. Oublie les Açores, y a Angoulême, voyage indolore. Paris Sarcelles, pour couvrir ton corps. Pas besoin de crème, un été en or. À Bourg-la-Reine, au moins si on s'expose, on ne rougira pas.
T'as même les cheveux.
Ouais. C'est pour une noble cause.
Pousse le souffle.
Protéger le climat. Ah oui, t'avais raison. Merci à tous et bonne émission.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Merci Jérémy Crédville. On parle de la fugue à la façon de Frédéric Bradberg. On va parler musique dans vos vies. Camille Chamou et Frédéric Belli-Garcia, vous écoutiez fin des années 70. On va commencer par Camille.
Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien.
Bah non, sauf fait, que, sauf que vous étiez toute petite
bah
fille.
Non, mais je suis née à la fin des années 70. Mais justement, quand vous m'avez demandé à
autour de cette période-là,
j'ai découvert que le chanteur était dans cette période. Et c'est drôle parce que c'est vraiment ma chanson préférée de karaoké. Et d'ailleurs, le karaoké d'Angers, où j'ai passé vraiment cinq semaines à Angers pour créer la pièce, le karaoké d'Angers est devenu ma deuxième maison. Et je salue tous mes amis du karaoké d'Angers qui probablement
s'appelle le karaoké
ce
Chamoun.
Matin. Et j'ai quand même traîné Nicole, la maman de Fred, au karaoké, et on a chanté le chanteur de Balavoine.
Non.
Si. Mais maintenant, j'ai découvert ma chanson de karaoké. Tu sais, tous ces gars qui ont leur chanson de karaoké. Ouais. J'irai tout seul avec maman et tout. Enfin, tu vois, il y a toujours le mec qui a sa chanson de karaoké.
J'irai tout seul.
Non, mais tu vois, c'est
j'habite seul avec maman.
Voilà, tu vois, c'est pas tout compris.
Moi, j'avais J'irai au bout de mes rêves, Jean Gueulemann.
Et ça, c'est ta chanson de karaoké, peut-être. Et bah, la mienne, c'est le chanteur.
Il était une fois. J'ai encore rêvé d'elle.
C'est vrai que ça, c'est le duo de karaoké.
Quand t'es torché, fin de soirée, tu fais ça, c'est fini, quoi. C'est fini.
Donc, le chanteur de Balavoine, j'ai compris, quoi. C'est parce que c'est vraiment l'année de ma naissance. Voilà pourquoi c'est ma passion, quoi.
Et votre naissance, donc on est en 77, Camille.
Oui.
Et rapidement, c'est le théâtre qui vous attire. Je crois que vous avez 6 ans. Vous voyez Michel Serrault dans L'Avare.
Ouais.
Et
c'est le coup de foudre. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a une raison à ça. D'abord, Michel Serrault dans L'Avare devait être exceptionnel, j'imagine. Et surtout, il est descendu de scène. Il y a le monologue de la cassette, là, de Harpagon. Ouais. Et il descend de scène et il passe au troisième rang. Et j'étais avec ma mère au troisième rang. Et il passe devant moi. Et du coup, il me parle. Où est ma cassette? Et il me parle. Et vraiment, j'ai un décroché. Je me dis, sort de l'écran. Enfin,
ouais,
c'est le truc.
Ouais,
je me dis, il vient me parler.
Et
je me dis, ok, c'est extraordinaire. Et à partir de là, je deviens dingue et j'apprends par cœur la scène Harpagon, la flèche, qui est une toute petite scène dans L'Avare, et je la joue en boucle.
Et vous lui avez dit ça, Michel Serrault?
Non. Non, mais je l'ai raconté une ou deux fois, mais pas à lui. Mais c'est vrai que c'est fou, c'est vraiment Michel Serrault. Vraiment, depuis Michel Serrault, je voulais être Michel Serrault.
Il y a un petit air.
Ouais, il y a un truc, quand même.
Frédéric Belli-Garcia, vous, dans les années 70, vous écoutiez...
How deep is your love? How deep is your love?
Trois barytons.
Ça, pour draguer ce show-là, c'est un peu comme Eagles Hotel California. Quoi.
C'est parfait. Quoi.
Tu peux pas passer à côté. Non. C'est, ou alors, s'il y a un vrai gros problème et que c'était jamais possible. Qu'est-ce qu'elle vous
c'est pas un humain.
Qu'est-ce qu'elle vous
comme beaucoup, moi, j'étais. C'est 78, je crois. J'étais en cinquième. Et vraiment, j'ai l'impression que. Déjà, on voit les filles qui avancent et puis la voix des Bee Gees. Dans le ciel, quoi. C'était une première expérience mystique, une mystique un peu moche, mais c'était quelque chose de...
Pourquoi
et pour beaucoup de gens qui ont connu ça, c'était enfin, cette année-là, avec la bande-son des Bee Gees, est resté une sorte de paradis perdu pendant longtemps.
Quoi. On a tous connu des mystiques un peu moches. Voilà. C'est l'adolescence.
Et vous avez 8-9 ans à peu près à cette époque-là.
Ouais, voilà. Ouais,
et c'est la première fois que vous êtes sur scène. Nicole Garcia, votre mère, vous fait mettre un costume, vous déguise en soldat de l'Empire.
Ouais.
Vous vous souvenez?
Oui, c'était pour un musée qu'elle faisait pour le Festival d'automne. Mmh. Confession d'un enfant du siècle, voilà.
Et vous avez joué sur scène.
J'ai joué sur scène. J'étais une sorte de soldat de l'Empire, de représentant du siècle naissant de Napoléon.
Vous aviez des petites bouclettes blondes.
Voilà, j'étais très beau.
Il les a toujours, ses bouclettes.
Ouais, ouais.
Voilà, la première fois que je suis monté sur scène, j'étais déguisé en kiwi. C'était ma mère aussi qui avait fait le truc.
Ça mène à deux carrières différentes.
c'est ça.
Et c'est ce que dit Nicole Garcia d'ailleurs, que vous étiez un ange, que vous étiez très très beau, qu'elle vous regardait comme ça. Et qu'elle raconte aussi votre relation, le fait que vous l'appeliez Nicole. Mmh. Finalement, c'est aussi, elle dit, vous vous êtes élevés ensemble.
Oui, elle m'a eu très jeune. Je suis né avant son entrée, juste quelques semaines
avant.
Avant son entrée au conservatoire.
Tu m'étonnes qu'on envoie des pièces bizarres. Je suis né avant ma mère, les gars.
Oui, après ça, il faut enchaîner les pièces. Juste quelques jours, je crois, avant son entrée au conservatoire. Donc, effectivement, il y a eu une sorte de on s'est, comme elle dit, on s'est coélevé un peu. On a avancé dans la vie un peu ensemble.
Et quel souvenir vous avez sur les plateaux de théâtre où elle vous entraînait un peu partout, parce
que c'est des mélanges d'endormissement dans la cour d'honneur d'Avignon ou sur les brasseries du sur les brasseries de la Coupole, voilà, aux soirées trop tardives. C'est un mélange d'ennui, de somnolence et sans doute une sorte de vague image de la gloire, enfin du glamour comme ça qui restait imprimé, quoi. Oui. Qui m'a rattrapé après.
Vous avez grandi à Nice, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui. Bah elle m'avait pour faire son conservatoire, elle m'avait mis à Nice dans la famille. Voilà, j'ai vécu 4 ans là-bas, dans l'Azur.
Milieu des années 90, Camille Chamou, vous écoutiez évidemment.
Le groupe s'est reformé.
Ouais, le groupe s'est reformé, mais chacune est légèrement déformée. Ouais, voilà,
non, j'ai vu une vidéo à Manchester, franchement. T'as vu l'âge qu'elle. Ouais. Non, mais attends, franchement.
Elles
mettent des tenues que pas beaucoup de filles peuvent mettre.
J'aime bien l'analyse fringue d'abord.
Ouais.
On va parler fringue
parce que je n'ai vu qu'une vidéo et je me suis dit, tiens, elles sont encore là, c'est marrant. Je m'attendais en effet à ce qu'elles se soient un peu nappées avec le temps et pas du tout.
Très élégant plutôt que de dire t'as grossi un peu.
Ouais, elle est toujours très élégante.
Merci beaucoup.
Nappé, c'est la première fois que j'entends ça, c'est joli.
C'était extraordinaire les Spice Girls en vrai. Space Up Your Life, c'est extraordinaire.
Tout le monde avait sa préférée.
Ah oui, c'était laquelle?
Celle-là, je l'adore, Space Up Your Life.
Non, mais la chanteuse.
Ah, ma préférée. Non, moi je les aimais toutes. J'aimais juste pas Victoria. Enfin, Porsche. Ouais. On l'appelle.
Victoria Beckham.
Ouais, je l'aimais moins que les autres.
Allez, moins d'après,
On est dans le milieu des années 90, Camille. Et vous entrez au conservatoire.
Oui, mais pas le national. Hein. Mais j'aime bien qu'on fasse flotter un petit doute, que je fasse toujours croire que j'ai fait le conservatoire.
Mais pourquoi c'est faux?
C'est le conservatoire du 7e, qui était génial.
Ouais.
Et qui, voilà. Et moi, je dis toujours d'ailleurs qu'il faut dire aux gens qu'il y a des. Parce qu'on pose souvent la question des formations théâtrales qui sont chères. Et je dis, mais vous savez qu'il y a des conservatoires de quartier en France. Gratuits.
Oui.
Et qui sont extraordinaires. Mais vraiment, c'est les meilleurs profs.
Les
Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a des auditions assez dures, mais il faut travailler. Et il y en a partout dans les arrondissements parisiens, mais également dans chaque ville, quoi.
Et saluons les parents qui font la queue le matin.
Tout à fait. Ah, je sens l'expérience.
Mais il n'y a pas de choix.
Non, mais c'est vrai, pour faire de la musique ou du théâtre, il faut aller voir les conservatoires du quartier. Et moi, j'ai fait le conservatoire du 7e, qui est vraiment un conservatoire qui n'était pas du tout mon quartier, d'ailleurs, mais qui était.
À propos de la scène, pour revenir aux Spice Girls, vous dites que s'il y a un podium et cette chanson-là, bing, vous monter dessus, vous faites la choré.
Voilà, et c'est là qu'à nouveau j'ai envie de lancer un petit bonjour à mes amis d'Angers.
Il y a des vidéos compromettantes qui doivent se
circuler. J'avoue, tous les podiums que j'ai pu trouver dans toute la ville d'Angers. Si je pars de ma famille pendant 2 jours, je deviens une Spice Girl.
Ouais,
vraiment. / Vernon Subutex.
Frédéric, vous écoutiez dans le milieu des années 90.
J'adore ça.
Il est très slow.
Ça peut être une chanson de karaoké.
Pourquoi
génial, c'est fou.
J'ai répondu ça, c'était lié. Oui, 1990, ça correspond à un moment où j'étais dans une vie antérieure, donc enseignant de philo. J'avais été muté au lycée Rabelais à Saint-Brieuc.
Aïe, aïe, aïe.
Il sentait ça.
Et je me sentais seul. Voilà. J'ai toujours adoré la philo, et j'adore toujours, mais c'est une expérience très, très de solitude, très, très grande. Et je me baladais dans Rennes en regardant les gens attablés dans les restos. Et je me disais que j'étais en train de passer à côté de la vie. Quoi.
De votre vie.
De votre vie. Je commençais à maîtriser à peu près Kant, mais la vie passait à gauche. Mais voilà. Et donc, c'était un peu mon humeur.
Mais pardon, c'est très triste, ça.
J'ai l'impression d'être à côté de la, de la socialité, de la chose. Je crois que c'est le métier qui m'a qui fout le plus le trac, quoi. Je me levais à 6h pour préparer le cours de 8h, surtout quand on est jeune prof, quoi.
Et monter sur l'estrade du professeur, c'est comme monter sur scène?
Ah oui, je me souviens, je me souviens de mon premier cours, j'avais enchaîné 2 heures de qu'est-ce que la philosophie, et au bout de 45 minutes, j'avais commencé à voir les regards qui partaient vers la fenêtre, tout ça, et ça avait été une sorte de trauma, un combat perdu. Après, je déshonorais Platon et toute la.
Vous voulez qu'on en parle un peu ce matin?
Non, mais vous allez arrêter d'enseigner de toute façon.
Après les diversions, oui.
Vous devenez pigiste au Nouvel Obs. Et là, vous avez Bernard Guetta comme patron.
Exactement, oui.
Et il vous dit, il y a un moment, il faut choisir, Frédéric.
Voilà, parce que j'avais commencé à faire des assistanats, des mises en scène. Et à un moment, il m'a chopé au café. Il m'a demandé de descendre au café au Vaudeville, la place de la Bourse. Et il m'a dit, oui, maintenant, il faut choisir où je t'engage, où tu fais autre chose. Voilà, Et après une grande respiration, je suis parti vers le théâtre où ça me semblait que j'allais retrouver les tablés et faire des choses dans une sorte de sociabilité, dans une sorte de collectif, comme on disait avant, plus aidant.
Fin des années 90, début des années 2000, Camille Chamou, dans un élan d'honnêteté, nous dit, écoutez...
J'ai rapporté une féliste honnête
et
tout prend sa terre ce matin.
C'est génial.
J'ai fait une féliste honnête.
Oui, exactement.
Si j'ai pas dit, comme d'habitude, j'écoutais Étienne Dao, Mano Solo. Non, j'ai vraiment allé au cœur du truc.
Parce que quand vous étiez déjà venu en émission, elle était très France Inter, la playlist.
Ouais, mais c'était vrai aussi, c'était The Dark Side of Camille Chamou.
Le double, ouais.
Et ça, c'est dark The Bright Side of Camille Chamou. Non, mais c'est vrai que, Britney, quoi.
Mais c'est votre côté Angers, votre côté soleil.
Oups, ouais.
C'est ça.
Et puis,
c'est mon côté Maine-et-Loire.
Il y a le petit côté Oops, I did it again.
Ouais.
C'est-à-dire
c'est
le côté ado, ouais, c'est ça.
Ouais, moi je suis très 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 gaffeuse, je dis tout le temps des trucs. C'est pas idoine, c'est vraiment toujours la réflexion un tout petit peu à côté, au moment où tout le monde se tait. Enfin, c'est fou en fait, c'est fou ce karma.
Ça vous désespère ou pas quand vous dites
ça? Ça me désespère parce que je me dis, c'est marrant, normalement tu progresses, t'avances dans la vie, enfin tu vois.
Ouais.
Et puis à un moment donné où voilà, ça y est, 40 ans, c'est bon, maintenant t'as la bonne réflexion au bon moment et
non,
tout.
Vous n'êtes pas 40 ans.
Non, bien sûr que non.
Bah, non,
plus,
évidemment pas. Sauf qu'il n'y a aucun problème avec son âge.
Il n'y a plus de filtre.
Ah merde, c'est vrai, comédienne, pardon. Oui, cet âge qui n'existe pas, auquel on n'arrive jamais.
Jamais.
Et voilà, et en fait, non, l'avancement est quand même pas du tout tangible. Quoi. C'est-à-dire que je continue à faire des gaffes de tout. Et là, quand même, le dernier truc fou, c'est vrai qu'on peut quand même raconter ce truc. Fred me dit un jour à Angers, il y a ma famille qui vient ce soir. Et j'ai un bug cérébral et j'oublie qui est sa famille. Et j'imagine vraiment des parents, des petits commerçants de Cholet. En fait, j'imagine une vie à Fred. Ouais, les Béliers Garcia. Enfin, j'imagine des gens. Ouais,
j'imagine les béliers.
Mais non, là, je zappe complètement le truc.
Je pensais qu'ils
étaient Cholet. Et je dis, mais tu sais quoi? On va emmener tes parents au karaoké. Et il me dit, ouais, c'est bizarre. Enfin, et j'oublie complètement. Et on commence la pièce.
C'est drôle.
Et j'entends le rire de Nicole. Et je fais, oh, mais au milieu du spectacle, je fais, oh, mais sa mère, c'est Nicole Garcia. Je vais pas du tout l'emmener au karaoké. Et vraiment, je revois ce moment où je lui dis, juste avant de commencer la pièce, ouais, t'inquiète, on va emmener tes parents au karaoké. Qui me regarde, genre, très, très chelou comme idée. Mais on l'a quand même fait. Et Nicole est devenue la star du karaoké.
Et on est en 99, Camille Chamou, vous allez créer votre compagnie de théâtre, L'œil du guetteur.
Oui.
Qu'est-ce qui déclenche tout d'un coup cette envie de... Parce que c'est des responsabilités, c'est lourd, on pourrait juste se contenter de jouer pour d'autres.
J'ai eu plusieurs chocs en tant que spectatrice dans le théâtre. Et je sais pas, voilà, je voulais être Patrice Chéreau. Enfin, c'est vrai, quoi. Je voulais être Olivier Py. Je voulais être Frédéric Bellier-Garcia, en fait. Dont d'ailleurs, j'allais voir les spectacles à cette époque. C'est vous dire la consécration que représente pour moi faire cette pièce. C'est vrai, c'est entièrement vrai. Et en fait, je me disais, il n'y a rien de plus extraordinaire comme vie, justement, et comme vie artistique, que de diriger des gens. Et puis, j'étais très mauvaise. mais c'est vrai que je me suis très vite dit, j'ai créé ma compagnie, j'ai vite fait de la mise en scène.
À quoi on voit qu'on n'est pas bonne pour la mise en scène?
Je voyais que c'était une zone où je savais entraîner les gens. Donc tout le monde me disait je savais créer des équipes, monter des projets, et j'étais très jeune et j'arrivais à trouver de l'argent, ce qui est quand même chouette, mais qui n'est pas ce qu'on demande exclusivement à un metteur en scène. Enfin, après, il faut vraiment faire une très bonne pièce de qualité.
Il y a plusieurs degrés. Il faut savoir diriger d'autres comédiennes ou comédiens, et puis avoir un regard pour avoir ce côté 3D.
Je pense que moi, j'avais
avec
vraiment
qui se déplace où, à quel moment.
Et... Non, mais je pense que j'étais pas bonne, et vraiment, c'est marrant.
Mais ça, on progresse ou pas, ou on se dit c'est fini?
Non, peut-être qu'un jour j'en referai, mais je crois pas.
Quand vous aurez 40 ans, vous avez le temps.
Oui, j'ai le temps.
Oh,
quand j'aurai 40 piges.
Il y aura plein de trucs possibles à ce moment-là.
Non, mais je le vois quand je rencontre des gens que j'admire et tout ça. Je vois ce que c'est que la mise en scène et la vision et la vision d'une œuvre et tout ça. Et c'est vraiment un truc que j'ai pas vraiment.
Frédéric, vous écoutiez Bélier Garcia, je te rappelle, au fur et à mesure, Camille. Hein, vous écoutiez dans les années 2000.
La nuit, je mens, je prends des trains. travers.
Elle est bien, ça fait Lise.
Là, c'est un sans faute.
J'ai jamais écouté.
Ouais. Non, il a eu Laura Pausini.
Mais si, c'est un sans faute. C'est un sans faute.
Tu ressens le côté des connes, hein, aussi, dans la. Tu sens le galurant. Tu sens que le mec, il y a une partie de lui qui est restée à Saint-Brieuc, quand même. C'est pas grave. Bienvenue, camarade.
Et vous dites c'est, j'ai commencé à aimer les chansons avec Bachung, c'est les textes et les mélodies qui vous...
Non, j'ai commencé à aimer des chansons dont je ne comprenais vraiment pas le sens. Quoi.
D'accord.
Je défie quiconque de me donner le sens de cette chanson.
Non, le sens, il n'y a pas un sens réel, il y a l'émotion que l'on peut ressentir à la juxtaposition d'idées ou de mots choisis par Boris Berman, Jack Folk, ou même ce que faisait Bachung, c'est-à-dire il modifiait aussi le texte de ses auteurs avec une espèce d'écriture instinctive qui lui venait en fonction des mots.
Oui, donc, voilà, après, et ça devait correspondre.
On ressent ou pas,
oui. Oui, il n'y a pas une sorte d'histoire, il n'y a pas une sorte de message, il y a une sorte de... Non. Voilà. Et j'ai commencé à adorer ça, et ça devait correspondre à ma vie où j'avais commencé à faire des spectacles, notamment aussi des enfants, des spectacles, une sorte de choses, et cette chanson-là,
tourbillon, enfant, spectacle.
Oui, voilà, quelque chose...
C'est joyeux.
Et c'est vrai que... Oui, j'aimais ça, et d'ailleurs, ça ressemble pas à Bradbeck, ça ressemble à ce qu'on disait de Bradbeck, des chansons dont le sens est flottant, après il y a une sorte d'allégorie dedans, mais allégorie de quoi, et les gens vont choper ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent dedans, quoi.
Ce qui est exactement le cas de ces deux pièces que vous montez, Retour et Le père de l'enfant de la mère, c'est au théâtre du Rond-Point, et ce juste à partir de ce soir jusqu'à la fin du mois de juin. Florence Mignot, merci de nous rejoindre à ce micro. Vous signez Comment parler à ses enfants chez Albin Michel, les conseils d'une psy pour parler avec eux,
de rire déjà,
aborder avec eux. Maintenant, on va parler de la pièce où les deux parents se font concurrence. Est-ce que c'est d'une manière surlignée, exagérée, évidemment le trait est grossi, mais inconsciemment c'est le cas.
Alors, c'est pas la majorité des couples, mais effectivement, si le couple centre, comme on disait tout à l'heure, tout sur l'enfant, effectivement, c'est presque deux enfants qui se mettent ensemble et qui ont un enfant ensemble. Et à ce moment-là, ils veulent attirer l'amour. C'est des parents qui veulent recevoir et non pas forcément donner. Donc, dans ce cadre-là, oui, il peut y avoir de la concurrence.
Mais la fameuse question, tu préfères qui entre ta mère et ton père? Enfin, qui est une potentiellement
question légitime.
Une vanne.
Oui.
Qui est potentiellement une vanne. Qui est potentiellement
une vanne.
Non,
la pose, par contre.
Bah oui.
Parce que, effectivement, le fantasme, même si après on fait, on est des adultes, on essaye de faire attention, on a une part de nous, pas forcément toutes les parts, mais envie que cet enfant nous appartienne, parce que l'enfant, c'est la sécurité affective, c'est l'amour, c'est l'enfant qui partira jamais par rapport au couple qui, lui, malheureusement, peut parfois se
séparer.
C'est vrai, parfois, qu'on préfère son père ou sa mère, en plus. Ça peut arriver, donc c'est pas complètement...
Tu as un truc à nous dire ?
Non, pas du tout. C'est pas complètement infondé, comme logique. De même que toi, il y a certains enfants que tu préfères, des tiens, enfin...
Moi, je leur dis à chacun.
Ben voilà.
C'est toi que je préfère. Mais j'attends que les autres soient là pour dire à l'un, c'est toi que je préfère, et je fais ça au fur et à mesure, évidemment, évidemment. Mais justement, une bonne question de Leïla. Est-ce que c'est un cas de figure qui se présente avec un enfant unique, cette espèce de combat d'amour entre parents?
Alors évidemment, si on n'a qu'un seul enfant, évidemment on a encore peut-être un petit peu plus envie d'attirer cette attention, mais on peut aussi avoir plusieurs enfants et la mère ou le père vouloir l'amour de tous les enfants. Encore une fois, c'est la structure du couple qui va changer ça. C'est-à-dire que si le couple est vraiment couple parent-adulte, donc c'est-à-dire l'idée de donner à son enfant et de se décentrer de ses besoins, il va y avoir une petite concurrence, mais bon, comme la jalousie entre frères et sœurs qui est normale. Par contre, si le couple se base sur un autre fondement, c'est-à-dire comme deux enfants blessés qui ont envie d'avoir de l'attention, de l'amour du couple, finalement, une fois qu'on a l'enfant, l'enfant c'est encore plus simple, il nous donne cette attention. Alors là, on peut être vraiment dans une concurrence et presque, comme on parlait tout à l'heure, de la violence parentale, parce qu'on n'est plus parents en fait. On est juste deux enfants qui ont envie d'être aimés et finalement l'autre n'existe
plus. Vous revenez beaucoup à ça, hein, c'est-à-dire qu'on est des enfants toute notre vie, quoi qu'il arrive.
Oui, mais parfois...
Même quand on met au monde un enfant, on reste un enfant. On reste toujours l'enfant de
quelqu'un. Normalement, on grandit. Évidemment, il y a cette part de nous, mais l'enfant joyeux. Après, après, l'autre part, l'enfant qui lui est un peu blessé, qui mélange un peu tout entre son conjoint, son enfant, qui a envie d'avoir cette attention qu'il n'a pas eu avant, donc ouais. C'est-à-dire lui enfant, c'est là où la violence et la concurrence peut être destructrice.
Et alors les mots qu'on ne peut pas dire, c'est-à-dire ou la manière dont un enfant peut l'entendre, avec tu l'aimes l'histoire de ton papa, hein, allez, bonne la soupe de maman, oh maman, elle
on est limite
elle
pédophile
est
qui parle.
Non, c'est vouloir faire parler l'enfant à ta place.
Ouais, c'est ça.
Ou papa t'a fait un très beau cadeau.
Camille Chameau a raison. C'est-à-dire qu'on devient l'interprète de ce que l'on aimerait que l'enfant dise.
Bien sûr, après, on peut pas s'empêcher de dire les choses. Il faut pas non plus vivre avec un carcan dans la tête. Mais par contre, bien faire la différence. Et si parfois, évidemment, on a envie de critiquer le père ou la mère parce que c'est normal et on a tous des pensées sombres, le fait c'est de vrai. Dire à l'enfant, excuse-moi, là où je me suis disputée avec papa ou là, j'ai peut-être mal parlé, mais c'est ton père et lui t'aimera. Donc, bien faire concrètement la différence entre ce que j'ai dit en tant que moi adulte. Ouais. Bah, parfois, il y a des phrases quand même dans le réel qui sont quand même dures et à entendre, et ce qui est normal dans toutes les familles. Par contre, juste dire à l'enfant et lui expliquer comment faire cette différence, donc concrètement, dire là, je me suis peut-être un petit peu emballée sur ton père ou sur ta mère, mais en tout cas, le rassurer sur l'amour qu'ils ont ensemble, ça, c'est plus important.
Il faut avoir fait 19 ans de psychanalyse, hein, je pense, pour arriver à ce stade. Non,
mais peut-être même 20.
Mais c'est important de dire qu'il y a des phrases comme ça qui jaillissent et qui peuvent... on pense pas à mal nécessairement, enfin en tout cas avec les parents.
En tout cas, il faut pas faire comme si elles n'existaient pas ces phrases.
On peut pas s'empêcher parfois de les dire, ça ce serait mentir. Par contre, on peut juste dire ça, c'est moi qui pense ça, mais toi tu as le droit de penser ce que tu veux.
Oui, mais
ton
c'est
père
super de dire ça. Mais justement, ce dont parle vraiment beaucoup la pièce Le père de l'enfant de la mère et que je trouve hyper juste, c'est ce truc de prêter des intentions à l'enfant pour régler ses comptes, quoi. Et ça, en revanche, c'est un truc, je pense, très fréquent.
Se servir de l'enfant pour faire passer un message subliminal à l'autre, c'est ça?
Exactement.
Ouais, tu vois, il aime pas quand c'est toi qui lui fais la soupe.
T'es triste parce que l'enfant il sait pas parler, donc il va pas dire s'il est triste ou pas. Oui, t'es triste parce que papa il est horrible.
Dis
il est trop sombre, il est horrible.
Il va au travail, il pourrait rester un peu avec toi, mais non, il préfère aller travailler. Dis au revoir à papa qui va au travail.
C'est ça.
Toutes ces phrases-là, ça c'est monstrueux de prendre en otage les enfants.
Bien sûr, après, encore une fois, on le fait pas forcément exprès. Le fait d'avoir confiance. Il y a la réalité, et puis il y a les livres. Et dans la réalité, on dit, on pense des choses. Mais le fait de le reconnaître et d'accueillir ça, parfois, c'est aussi de dire à son enfant, c'est vrai que j'ai plus de facilité avec toi, un peu moins avec ton frère, mais comment on pourrait essayer ensemble de faire des choses? Parce que l'enfant, il va le ressentir, forcément. Il dit, mais non, tu préfères mon frère. Mais non, t'inquiète pas. Et puis, il va le répéter comme ça 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'on s'énerve. Et qu'à un moment donné, effectivement, on lui dit, bon, écoute, avec ton frère, c'est plus simple.
Alors vous expliquez qu'il faut aborder tous les sujets, c'est-à-dire dire que quand ça va plus, quand on va se séparer au sein du couple, en parler avec l'enfant, quand il y a un autre enfant, quand il y a un autre enfant qui va arriver, annoncer la grossesse.
Aussi, il va le voir aussi, hein, fatalement.
Oui, mais c'est en tout cas, c'est pas à lui de dire, il se passe un truc bizarre, c'est aux parents de l'annoncer avant.
De toute façon, l'enfant le ressent. Hein. Même un bébé ressent quand il va avoir un frère et une sœur. Mais le dire avec des mots simples, ce qu'on ressent aussi parfois dans la tête, si c'est l'annonce d'une grossesse, on peut le dire au moment où on le ressent aussi, parce que c'est important quand on est parent. Parfois, il y a des parents qui préfèrent attendre 3, 4, 6 mois parce qu'ils sont pas sûrs, et c'est aussi entendable. Mais le dire à l'enfant de manière très simple et en parler quand lui, par contre, a envie d'en reparler.
Et alors, pardon, très, très rapidement, parce que je voudrais quand même qu'on n'ignore pas la première pièce qui s'appelle Le Retour, autour de la mort, justement. Justement, faut-il ou pas parler de la mort aux enfants, et faut-il parler de notre mort de parents, en disant c'est le cycle normal de la vie, un jour je ne serai plus là. Comment aborder la notion de mort? Les enfants sont les premiers à l'aborder d'ailleurs, hein, c'est eux qui sont les premiers à mettre le sujet sur la table.
Alors l'important, c'est que ce soit l'enfant qui fasse sa propre représentation de la mort avec ses images à lui, parce que c'est à hauteur d'enfant. Quand nous on a des images, l'enfant comprend pas forcément. Parfois on a toujours des grandes idées poétiques et l'enfant le visualise pas comme ça. Alors quand on va lui poser la question, toi comment tu l'imagines, on va se mettre à sa hauteur. Parfois c'est un village entier. J'avais un enfant qui me disait un village avec des bonbons. Parfois c'est des choses très enfantines, mais comme c'est à
ça, c'est l'au-delà. Vous parlez du village avec les bonbons, c'est l'au-delà.
Oui, c'est après la mort.
Ça n'existe pas,
Nagui.
C'est qu'on part de loin, des fois. Mais je suis là pour recadrer.
La vraie question, c'est l'après la mort. Sinon, la mort en tant que telle, c'est pas forcément ce qui questionne le plus l'enfant. C'est où est-ce que tu vas aller si tu m'abandonnes, en gros.
Pardon, il y a aussi l'absence. C'est au-delà du village de bonbons. Du ciel, machin. La personne qui est morte, qui est plus là, et après, c'est de vivre sans elle. Ça aussi, faut l'expliquer.
Oui, mais ça, encore une fois, c'est comment l'enfant va interpréter ça. C'est-à-dire, imagine que je suis plus là, qu'est-ce que tu ferais ?
D'accord.
On part dans quelque chose d'imaginaire parce que l'enfant peut se construire quelque chose dans sa tête qui permet d'y penser.
Lorsqu'il y a une maladie, il faut l'annoncer aussi. Parce qu'il y a une maladie grave.
Oui, parce que l'enfant vit avec vous. Donc, de toute façon, tout ce que vous vivez et vous ressentez, il le vit même encore presque plus que nous. Parce qu'il est dépendant, donc il est obligé d'observer. Un parent malade, c'est un parent qui est parfois plus triste, qui pleure, qui se cache derrière la porte pour parler à son conjoint. L'enfant, il guette derrière la porte ou pas, mais en tout cas, il a cette tension intérieure et si on lui dit pas les choses, il va les interpréter. Et il va, en général, imaginer le pire. Tout comme nous, on n'imagine pas forcément le meilleur. On nous explique les choses et il y a quelque chose qui s'apaise en nous, même quand c'est grave et quand c'est important. Sinon, la pensée part à tout va et c'est effectivement 10 fois pire d'arrêter un scénario catastrophe.
Et lorsque, dernière question, lorsqu'on souhaite la mort d'un collègue de travail comme Daniel Morin, est-ce qu'il faut l'exprimer ou est-ce qu'il faut
le dire à ses enfants ?
Il le ressent.
Ça va. Alors. Comment parler à ses enfants chez Albin Michel ? Merci Florence Millot d'être venue à ce micro.
Merci de votre patience.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Tanguy, en Chine a lieu cette année, comme chaque année malheureusement, un festival de la viande de chien.
Oui, plus précisément à Yulin. Hein, je vous donne le nom de la ville pour que vous pensiez entre les 21 et 30 juin, date du festival, à aller ailleurs.
Voilà.
Le festival de la viande de chien, c'est comme les vieilles charrues, sauf que les gens ne se cuisent pas eux-mêmes à coups de Valstar, ils cuisent des chiens. C'est les animaux de la 8 qui auraient fusionné avec Top Chef.
On en reparle après les infos de midi, je sens que je vais aimer ça. La bande originale avec Leïla Kadoumi-Dévi, Daniel Morin, Albert Albon, Jérémy Crédville, Tanguy Passureau et nos invités Camille Chamou et Frédéric Béli-Garcia. Au Théâtre du Rond-Point à partir de ce soir et ce jusqu'à la fin du mois de juin, 21h, Retour et le père de l'enfant de la mère, deux pièces mais qui n'en font qu'une autour de, pour reprendre notre expression, la Trinité, papa, maman et l'enfant. Cet enfant étant joué deux fois par Dimitri Doré, que ce soit en tant qu'adolescent qu'en tant que petite fille. Ça c'est une pirouette de metteur en scène.
Oui, c'est une pirouette de metteur en scène. Mais il y avait ces deux pièces à faire, donc il y avait l'adolescent qui est l'enfant qui est adolescent à la première, puis il y avait cet enfant. J'ai demandé à l'auteur, mais comment, c'est quoi un enfant de 3 ans ou 2 ans qui parle pas sur un plateau? Il m'a dit débrouille-toi, grosso modo. Avec Dimitri, qui est une sorte de, qui est un acteur assez étrange et génial, et qui a une sorte de présence et de regard. En fait, il pouvait avoir ça en ayant en main une poupée assez réaliste. Il pouvait avoir cette attention de l'enfant, quoi, par rapport à la bataille qui a lieu dans ses airs.
C'est une sorte de marionnettiste qui est là, dont on doit oublier presque la présence.
Oui.
Et ce qu'on réussit à faire très très rapidement, parce que son jeu est très neutre. Le père de l'enfant, de la mère, donc une première en présence de l'auteur. Dans quel état on est, Camille Chamou, Frédéric Béli-Garcia? Non, c'est vrai.
Un peu stressé, mais c'est une pression joyeuse parce que on a quand même
éprouvé la pièce. Ouais.
Heureusement. Sinon, ce serait une pression épouvantable. Mais là,
sauf que l'auteur, enfin, à moins qu'il soit bilingue, il comprend le français ou pas?
Non, mais il va se repérer.
Quand tu connais, je pense qu'il connaît ses pièces totalement par cœur, donc en fait, oui.
Il retrouve la musique, ouais.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'adaptation, de traduction, justement, entre la pièce initiale et le français?
D'ailleurs, c'est une langue que, comme vous disiez, son coup de génie est sur la construction de la pièce, quoi, surtout la deuxième, sa construction. Après, la langue dedans est une langue très 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 simple, quasiment élémentaire, puisque on pourrait décrire la pièce aussi comme la manière de voir l'histoire d'un couple, de son apogée à sa chute, simplement à travers les paroles qu'ils ont à un enfant qui ne sait pas parler, quoi, qui ne peut pas parler, donc à travers le blabla qu'il y a et de par ce petit prisme déceler l'évolution de ce couple. Donc,
et comme on disait, à travers l'écho que l'autre aura de cette même phrase,
c'est-à-dire
c'est pas tout d'entendre une phrase, c'est de l'entendre dire à son enfant.
Et c'est pour ça aussi que, enfin, en répétition, on a essayé plusieurs choses. Et Fred nous a fait essayer, par exemple, l'intégralité de la pièce avec juste le mannequin de l'enfant, qui est extrêmement réaliste, qui est l'équivalent des petits enfants dans les films, etc. Donc, c'est vraiment fait pour être très très réaliste. Et ça marchait aussi, mais c'était beaucoup plus fort quand il a eu l'idée de la manière manipulation de l'enfant par celui qui jouait l'adolescent dans la pièce précédente.
Avec la farine, il faut qu'il y ait une réaction. Sinon
il faut qu'il y ait une réaction pour tout. Et en plus de ça, il y a un côté, l'enfant est manipulé par la demande d'amour des parents. Et ça, c'est hyper fort. Ouais. Et en fait, il y a un moment où ça apparaît. Ça finit par apparaître comme il est manipulé, c'est un petit enfant manipulé, marionnettisé, et en effet, il est totalement marionnettisé. Je trouve que c'est très poétique, quoi. Ça apporte une dimension poétique.
Le père de l'enfant de la mère est retour, c'est au théâtre du Rond-Point et Tanguy Pastureau, c'est sur Inter, et c'est tout de suite. Tanguy, comme nous tous, vous aimez les chiens.
Oui, puisqu'ils ont ceci de supérieur aux êtres humains, qu'à tout moment de la journée, ils sont d'accord pour les papouilles. Alors que prenez un conjoint, par exemple. Même ceux qui, sur les sites de rencontres, s'appellent Chaudard 54, Nancy très chaud. Bon, bah, deux hippopotamus et trois coïts plus tard, la personne est là à regarder le top streaming sur ses stars. Et au moment où vous réalisez que le numéro 1 est le titre Elle est bonne, sa mère du rappeur VG Dream, vous vous pendez dans sa cuisine. Après avoir hurlé, ça peut pas être le même pays qui nous a donné Ronsard. Bref, les chiens sont super, pas embêtés. Un pipi de temps en temps. Le mien, du coup, il ne fait que sur les trottinettes électriques en libre service.
C'est bien.
Et c'est plié. Seulement en Chine, à Yulin, les gens ne sont pas du même avis. Ils entretiennent avec les chiens le même rapport que nous avec le plat de coquillettes au beurre. Ils les mangent. Alors, bien sûr, j'entends déjà l'auditeur ouvert de France Inter s'exclamer « Ouah, le cliché et l'autre va entreprendre des relations non appropriées avec ta génitrice, fils de Blanquette. » Sauf que les faits sont là, les gars. Nous, en France, ne bouffons pas de chiens. Je ne dis pas que je n'ai jamais été tenté. Je me souviens d'une fois où j'étais arrivé au lunch après l'heure de la fermeture. Bon, là, j'ai vu passer un petit bichon avec une vieille dame. J'avais faim. Je lui ai proposé 100 € pour le bichon. Elle était outrée. Je me rappelle, elle m'a dit hors de question. Je descends pas en dessous de 150. Puis, j'ai pensé aux Chinois et je me suis demandé ce qu'aurait fait Confucius dans ce cas-là. Parce que Confucius avait un avis sur tout. C'était le Christophe Barbier de l'époque. Eh bien, je pense que Confucius aurait dit un truc comme de la viande de Yuki. Tu dois te prévenir si tu ne veux pas avant 16 h comme un con vomir. Hein, trois citations de Confucius. Dans un dîner, vous êtes le king. Hein. Je le dis à ceux de nos auditeurs qui seraient en quête de relations sociales, ce qui est une aberration à cette saison, puisque les gens transpirent et donc sentent. Bref, résumons, le français ne mange pas de chien. Mais certains chinois, si. Pas tous, hein, sinon les refuges seraient vides, et même le remake de la série Rex, il serait obligé de faire jouer Welbeck non lavé pour qu'on pense que c'est le neveu du berger allemand d'origine. Certains, à Yulin par exemple, a lieu le festival de la viande de chien et de chat. Hein, les organisateurs sont aussi à l'affût d'autres saveurs.
Ouais, ils ouvrent.
Hein. Alors ça démarre le 21 juin, c'est atroce, hein, les bêtes hurlent. Nous, à la même date, on a les musiciens amateurs dans les rues, donc le rendu sonore est le même. 10 000 chiens... 4000 chats tués chaque année. Et quand je dis tués, il faut voir les méthodes d'exécution. On n'est pas là à leur diffuser des interviews d'Ariel Dombal jusqu'à ce que leur cerveau n'en pouvant plus implose. On les défonce à coups de bâton, on les éventre et on les ébouillante vivants puisque ça permet, dit-on, de garder leur corps intact. On a fait la même chose en 87 à Nicolas Sirkis du groupe Indochine.
Non.
Hein, et ben, ça, il n'a pas bougé depuis 30 ans.
Non.
Alors, comment expliquer qu'en 2019, où qu'on soit dans le monde d'ailleurs, un festival de la viande de chien soit envisageable? Eh bien, l'explication est simple. L'homme est une crevure. Hein, voilà, en 42, on a gazé des gens. En Rwanda, il y a 20 ans, on en a découpé d'autres à la machette. Partant de ce principe, on peut trucider des chiens pour les faire en sauce. Heureusement, l'humanité n'en a plus pour longtemps. Fuck Yannick Jadot. Il faut accélérer l'apocalypse climatique. Je dis ça pour le bien de mon chien et de la planète, Nagui.
Alors, parmi les milliers de personnes choquées, des personnalités françaises s'élèvent contre ce festival.
Oui, alors, donc, on pense célébrités à dimension mondiale, hein. Marion Cotillard, David Guetta, Footix, hein, des Français superstars, hein, pour que les Chinois se disent c'est vrai, on a tort. Manger des chiens alors qu'à Auchan ils font 3 paquets de chips store pour le prix de 2, nous sommes des brêles. Et bah, raté, on fait une pétition Jean-Marie Bigard, Sardou et Phil Barnet. Alors Phil Barnet, je l'adore, hein, j'ai chialé sur son titre Un enfant de toi. Hein. Dès que ça commençait, je me mettais à pleurer en disant dire que ça va durer 3 minutes 30. Mais Phil Barnet, dès 1990, il n'y a plus personne qui le remettait. Et pourquoi ce sont ces gens-là qui s'engagent? Et bah, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Bigard est en roue libre, Sardou n'a pas de limite, Phil Barnet bah, n'a pas de carrière à préserver. Donc se faire taxer de racisme, ils s'en tapent le coccyx contre la barrière de la ferme de leur tante. Parce que c'est ça que les mecs répondent, vous savez, quand on les critique, ils vous disent c'est la tradition. Et donc on passe pour un occidental ethnocentré, néocolonialiste, à moitié facho. Et ben je vais vous dire, je ne suis pas raciste. Hein. Vous me connaissez, j'ai horreur des blancs, des noirs, des arabes et des asiatiques exactement au même degré à partir du moment où ils sont plus de 25 par kilomètre carré. Mais entre le festival de viande de chien et le fait qu'on extermine des rhinocéros rhinocéros, des ânes et la moitié du zoo de Beauval pour les réduire en poudre, juste parce qu'un jour, un mec en Chine a dit que ça entraînait une érection digne d'une poutre de Notre-Dame avant l'incendie, les Chinois commencent un peu à me brouter. Alors après, des gens disent « Ouais, nous on mange bien des cochons, des bœufs. » C'est vrai, sauf que moi, non. Donc je peux ouvrir ma gueule. Hein, c'est le seul avantage que j'ai. Ah bah je bouffe des graines, dans les barbecues je m'emmerde, je ne vibre même pas quand passe la pub Fleury Michon. Hein. Je suis le seul en 2019 à penser « Bon, ça reprend The Voice. » Mais à propos des bêtes, je peux parler. Hein. Quant à la tradition, bon attention, on en a des gratinés nous aussi. Hein. Ce sont pas les Chinois qui ont créé la corrida. Hein, 900 blaireaux qui regardent un taureau se prendre la séance d'acupuncture la moins raisonnée du monde. Pitié, je ne dis pas que je déteste les toreros, mais si à la mort ils se font fister par Satan, je penserais bien fait. Bref, en Chine, comme à Nîmes, stop à la torture et vive Phil Barnet.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
La bande originale avec Camille Chamou et Frédéric Bellier-Garcia qui sont nos invités pour parler de retour et du père, de l'enfant, de la mère, avec, vous l'avez dit Camille, un point de vue plus masculin. Vous l'avez ressenti en tout cas dans la deuxième pièce.
Oui, dans la deuxième pièce. Mais alors déjà, il y a une question d'auteur. Hein. Je crois que l'auteur, c'est assez autobiographique. En tout cas, il y a du vécu dans la deuxième pièce. Beaucoup.
C'est-à-dire qu'il a eu un enfant, il s'est séparé de...
Alors, il ne s'est pas séparé, je crois.
Ah.
Enfin, non, on va le savoir ce soir.
Quand son enfant est né, c'est lui qui s'en occupait à la maison. Quoi.
Il d'accord. Avait, voilà. Homme au foyer.
Homme au foyer, voilà.
Puis sa femme démarrait. Plus... Pays nordique aussi, avec une exactement. Ouverture un peu plus grande oui, voilà. Pour les hommes à voilà. Être des pères,
voilà.
Quoi.
Voilà. Et dans cette solitude, avec l'enfant, avec la mère qui rentrait, à un moment, il a, oui, comme certains pères, espéré que l'amour aussi, l'amour, la tendresse, autrefois attribuée à la mère, lui oui. Viendrait dessus, et qu'il s'est rendu compte que cette place n'était pas que ça lui échappait malgré donc vécu comme une sorte de dans une sorte d'amertume mm-hmm. De ressentiment et ça a tordu le couple
Ouais. Alors c'est vrai que le point de vue est plus masculin je vous l'accorde mais c'est
non mais c'est hyper intéressant enfin moi et puis de toute façon il y a
ça
une
apporte quelque chose d'autre parce exactement. Que on dit toujours que l'enfant est en connexion directe avec sa maman donc ça change ce que l'on peut voir habituellement ouais. En tout cas
tout à fait moi je l'avais déjà vécu dans ma vie hein, donc du coup ça
non, et puis c'est
moi
bon
il m'appelle
signe.
Papa hein, donc
ouais, c'est
ah, non, mais, tout puis, va bien
et puis ça veut dire que finalement c'est bon signe quoi si tout d'un coup l'homme commence à revendiquer une part d'amour
exactement.
Égale à celle de la femme,
exactement.
Ça veut dire qu'il s'implique. D'ailleurs, le titre même de la pièce montre bien oui. Tout d'un coup comment le père et la mère sont prennent en sandwich l'enfant ouais. Et se bataillent. Et,
oui, oui, c'est, oui. C'est ah, il peut amour. Être interprété différemment. Le père de l'enfant de la mère, c'est que le père reste toujours que le père de l'enfant
père.
De la mère.
Ouais. Ouais, et en même temps.
En même temps, oui, non. Ouais. Mais le père peut mal le vivre.
Oui, ouais, ouais.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça part de toute façon des nouveaux schémas familiaux et de la modernisation de la famille.
Et que la ligne de front a sans doute bougé. Et je crois que Bradberg arrive bien à repérer.
Ouais,
voilà.
Sauf que les deux disaient horreur quand même aux oreilles de l'enfant.
Alors, d'un côté, ça n'a pas changé.
Ça, c'est assez stable. D'un côté, il y a ce couple qui finit par dire des horreurs et on n'a pas envie que l'enfant entende ses horreurs. Et de l'autre côté, il y a la première pièce où je reviens sur cette idée de on s'habitue au pire, ouais. À la pire des horreurs, au pire du malheur, la mort d'un enfant. Ouais. On ne peut pas imaginer qu'on puisse rire de ce genre de situation. Et c'est pourtant la prouesse.
C'est la pièce.
Ouais. Voilà. C'est la pièce la plus politiquement incorrecte que j'ai lue de ma vie.
À la fois la mort de l'enfant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est terrible. Mais c'est devenu une sorte de recette. Par exemple, dans plein de séries, ouais. Les gens relancent la série en faisant disparaître un enfant à l'épisode 4 ou 5 selon le modèle. Mm-hmm. Et c'est vrai que de choper à un moment ça comme un moteur de comédie, c'est aussi il fallait le faire, mais aussi c'est aussi le courage ou l'audace de Bradberg quoi.
Ouais, tout à fait.
Du courage et de l'audace, c'est exactement ce qui lui manque. Voici Daniel Morin.
Ah, c'est si bon de recevoir des nouvelles de ceux qu'on aime. Ah, surtout quand on est sans nouvelles d'un être particulièrement cher et depuis longtemps. Et depuis hier, ouf, c'est bon, ça va. J'ai des nouvelles d'Alexandre Benalla. Ah, oui. Alors non, Benalla et moi, on n'est pas proches. Mais sans le savoir, il m'a apporté tellement de matière pour écrire mes chroniques que pour moi, c'est devenu un proche. Alors qu'est-ce qui devient ce cher Alex? Eh bien, figurez-vous que c'est Marcel Campion. Vous savez, Marcel, le gentil forain, ma fille homophobe, qui lui a trouvé du boulot. Benalla va devenir consultant sécurité pour la foire du trône. Ah bah merde alors, j'en ai entendu des intitulés d'emploi fictif, mais des comme ça, c'est balèze quand même, hein. Alors j'imagine les réunions avec Alexandre, le consultant sécurité. Bon les gars, qui dit foire, dit foule. Qui dit foule, dit agitation.
Qui dit agitation dit danger. Qui dit danger dit mobilisation. Qui mobilisation dit vigilance. Qui dit vigilance dit matraque.
Pas comme ça.
Oui, comme ça. J'en ai pas beaucoup de voix à mon répertoire, donc ce sera celle-là. Règle numéro 1. Si vous voyez un rassemblement de plus de 5 personnes, vous dispersez. S'il y a résistance, vous matraquez. Règle numéro 2. Si vous repérez des agitateurs, réaction immédiate, vous prenez à la gorge, vous exfiltrez. Une fois le ou les individus exfiltrés, vous revenez à la règle numéro 1. Vous matraquez. Règle numéro 3. Apprendre les règles numéro 1 et 2 par cœur. En cas de problème, problème du style décès d'un individu matraqué suite à l'application de la règle numéro 1, vous venez me voir immédiatement. Là, je vous remettrai un passeport dit diplomatique. Vous pratiquerez sur vous la règle numéro 2, l'exfiltration. Voilà, c'est tout. Ah ben voilà, on le sait, on ne sera pas du tout en sécurité à la foire du trône. À tout moment, on pourra se faire taper sur la gueule. Alors, autre sujet tout aussi grave, vous en souvenez sûrement, en début d'année, deux accidents d'avion avaient secoué l'univers des transports aériens, deux accidents dans lesquels étaient impliqués des Boeing 737 MAX. Interdiction de voler pour ces appareils depuis mi-mars, gros manque à gagner pour les compagnies et pour le constructeur bien entendu. Du coup, le constructeur a multiplié les enquêtes et hier, tada ! Annonce de Boeing, on a trouvé des problèmes. Les problèmes de nos 737, il y a un problème sur les ailes. Non mais allô, un problème sur les ailes. Tu construis des avions, tu vérifies pas hyper bien les ailes et tu te dis ok, ils peuvent voler. Faut deux accidents pour que tu vérifies que les ailes de ton avion sont ok. Alors dans un avion, quand tu te rends compte qu'il y a un problème avec l'appui-tête, même si après quelques vols et des passagers ont un petit torticolis à l'arrivée, tu corriges plus tard, c'est pas comme si c'était grave. En revanche, les ailes, quand on parle avion, ça fait partie des choses que tu dois vérifier une, voire deux fois avant d'autoriser les vols. Alors j'en connais, en ce moment, il doit se faire petit. C'est le responsable, elle, chez Boeing. C'est comme si Ferrari annonçait après une cinquantaine d'accidents, ouf, il a trouvé le problème. Ça y est, c'est les freins, ils ne marchaient pas. C'est un problème d'aile. Mais quoi comme problème? Une aile plus courte que l'autre? Ils ont vérifié qu'à côté? Il y en avait une en fer, une en bois? Non, c'était juste une pièce qualifiée d'indispensable pour le décollage et l'atterrissage qui était défectueuse. Atterrissage, décollage qui sont, je le rappelle, deux opérations qu'on peut qualifier d'importantes dans le processus de trajet en avion. Alors pour nous rassurer, Boeing ajoute que les compagnies sont donc invitées à vérifier si la pièce en question fonctionne ou pas.
Tu m'étonnes. Hein,
et au cas où ça marche pas, les compagnies sont invitées aussi à changer la pièce. Mais c'est sympa de la part de Boeing de demander ça, hein, qu'on change la pièce pour pas que l'avion tombe. Ouais, ben j'espère pour eux, hein. Avec des constructeurs comme ça, on est hyper rassurés. À l'approche des congés d'été, des grands départs, voilà qui va donner envie d'aller très très loin en vacances. Moi, si c'est ça, je vais passer mon été à la foire du trône. C'est dangereux, il y a Benalla. Mais tant pis.
Merci d'être là.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Aux côtés de Jean-Charles Clichet, de Dimitri Doré, Camille Chamou et le tout dirigé par Frédéric Bélier-Garcia dans deux pièces écrites par Frédéric Bradbert. La mise en scène, vous la vouliez à la fois très, très épurée mais très réaliste aussi. On voit clairement le salon, la cuisine, la porte d'entrée. Enfin,
oui,
dans
la première pièce, oui.
C'est très clair. Et ensuite, ça devient un jeu de lumière qui vient déterminer.
Oui, après,
l'escalier, jusqu'à...
Il y a un premier salon réaliste et après... Dans un moment de changement, un peu tout s'arrache et il ne reste que la structure, l'architecture, le squelette de cet appartement pour ces scènes qui sont effectivement, comme vous disiez, c'est écrit comme donc c'est des variations sur un thème. Donc par exemple la scène du vélo, elle est là 9 fois. Les 3 premières, le mari prend le vélo et les courses. La 4e, il donne les courses. La 5e, il passe. Donc c'est des mêmes scènes répétées. Donc il y a quelque chose
avec
un peu
plein de surprises. Hein, je précise pour l'auditeur. Elle est là 9 fois avec plein de surprises.
C'est ça.
C'est une sorte de comédie mathématique.
Y compris quand le mari
n'est
plus
là. Il reste que la géométrie un peu de ce décor. Quoi.
Et puis il y a le espèce de didascalie, le lien entre les deux où là il y a un film qui est projeté. Ouais. Alors là pour attirer le public. Vous verrez nu Camille Chamou dans un lit. C'est bien comme ça.
Ouais, c'est hyper bien, ouais, bravo. Ouais.
Je le vends bien. Ouais. Ça, c'était pas prévu par l'auteur
c'est une décision, comme il y en a d'autres dans l'explicable, mais de mise en scène, oui. De présenter un peu ce couple avec enfant à l'heure bénie de
l'amour.
De l'amour et de
la conception. Un peu après
la conception. Ouais.
Vous aviez déjà travaillé avec Jean-Charles Clichet plusieurs fois, vous l'avez dirigé.
Oui.
Donc vous n'êtes pas posé de questions sur lui. C'était le premier que vous aviez casté ou c'était Camille? Comment constitue un couple comme ça sur scène?
Bah, c'est le premier que j'avais casté. Après j'aime bien l'instinct des acteurs aussi sur le casting. Donc avec lui on a discuté des actrices qu'il avait envie d'avoir, que moi aussi j'avais envie de voir. Et il venait de tourner dans un film avec Camille.
Oui.
Il venait de tourner et donc il m'a parlé d'elle. Moi, c'est une actrice que j'aimais beaucoup. Et
comment vous comprendre?
Et donc ça m'a,
non,
ça,
mais c'est vrai,
cela
c'est vrai.
M'a autorisé, m'a donné le tremplin pour aller lui proposer ça.
Non mais ça met, Camille, sachez-le, ça met en appétit quand on sait que vous êtes sur un projet. Enfin, il faut même que les producteurs, les metteurs en scène l'entendent. Quand nous, on voit passer plein de projets, on dit ah, Camille Chamou fait un truc, tiens.
Et ah ben alors, moi j'ai pas perdu ma matinée.
Attendez,
la première,
elle est pas finie.
Très très bonne. Là, c'est le soir.
Les comédiens, on n'est pas convaincus.
Autant, et là, il se ferait des noms, il se ferait hyper méchant. Non, mais c'est vrai, Jean-Charles Cliché, il jouait dans Première Vacances, et moi, je trouve que c'est un acteur au cinéma qui est hilarant, et au théâtre qui est incroyable. Il joue aussi dans Les Idoles avec Christophe Honoré, et il fait tous les projets de Fred depuis. Mmh. En fait, Fred l'a pris une fois, et quand tu connais Jean-Charles Cliché une fois, tu
on
le refais tout
passer.
Le temps. Et donc, voilà.
Vous avez joué ensemble dans quel film?
Première Vacances avec Jonathan Cohen, le film de Patrick Cassir, et voilà. Et donc, c'est comme ça que je l'ai connu.
Cette pièce se joue jusqu'au 30 juin à 21h au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et après, Camille, qu'est-ce qui se passe?
Et après, qu'est-ce qui se passe?
Alors,
il y a juillet. Alors, d'abord, il se passe que je vais retravailler avec Frédéric Belli-Garcia et Jean-Charles Cliché, parce que j'ai adoré cette expérience et qui vient de me proposer un second spectacle, enfin, un autre spectacle, qui commence à répéter en juin, donc tout de suite. Et donc,
il vient de vous proposer maintenant pour le mois de septembre?
Oui, mais parce que c'est un remplacement.
Enfin,
quelqu'un devait le faire et ne peut pas pour des très bonnes raisons de vie très chouettes.
Très bien.
L'inverse. Le décès d'un enfant, on deviendrait complètement fou. Et donc, c'est une chance pour moi parce que du coup, il m'a proposé de le faire et je trouve le projet génial.
Et ça sera où et quand? Septembre, vous avez dit,
à quel théâtre? À Angers, puis après au Théâtre de la Tempête, puis au Théâtre de la Criée.
Voilà.
Et c'est encore deux pièces, une sorte d'appétit, de fait que j'en fais
deux pièces courtes,
une pièce d'un jeune auteur russe assez génial qui s'appelle Ivan Viripayev, et qui est accolé à une pièce en un acte de La Biche.
Qui s'appelle L'affaire de la rue de l'Oursine. Voilà.
D'accord.
Et ça, c'est le prochain.
Je vous en prie. Il y a d'autres, j'imagine, projets.
Oui, alors, il y a un film j'aime beaucoup qui va sortir, je crois, à la rentrée de septembre. Je crois que la date est presque calée. Qui s'appelle Sol. C'est un film avec Chantal Lobby et moi-même.
Mmh.
Et c'est une sorte de duo, Chantal Lobby, enfin de trio d'ailleurs, Chantal, un enfant et moi. Que je trouve très jolie, de Gisabelle Marquez. Et...
Mais alors, pardon, c'est un couple de femmes qui a un enfant?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais je dis pas ce que c'est, parce que ça fait vraiment partie...
C'est une comédie, c'est un drame?
C'est plutôt une comédie. Plutôt une comédie, mais c'est une comédie dramatique, peut-être.
Okay.
Mais il y a moins de drame que de comédie.
L'enfant ne meurt pas.
L'enfant ne meurt pas, personne ne meurt. Ce n'est pas ma spécialité, et voilà. Et c'est Chantal Lobby et moi, je crois que ça va être très chouette.
Parfait, on a hâte de découvrir tout ça. Merci mille fois, en tout cas, d'être venu à ce micro. Théâtre du Rond-Point, retour et le père de l'enfant de la mère, et surtout des excuses, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour toutes les comédiennes et tous les comédiens qui vont être amenés à travailler avec Frédéric Bellier-Garcia et qui ont découvert ce matin sa méthode de management héritée directement du rugby, je cite « la violence sympathique à la grande famille du théâtre ». Désolé pour le talent de comédienne de Valérie Caprisky qui a été résumé par Camille Chamou à, je cite « frotter ses seins sur un peu tout le monde.
Cette grande famille du film, de la vidéo, bien sûr.
Désolé pour la carrière et l'écriture du grand Charles Aznavour, notamment, comme il dit, ce qui a été transformé par Camille Chamou, je cite, « J'irai tout seul avec maman. » Ah, Camille Chamou, j'aimerais tant voir cette grande comédienne dans N'oubliez pas les paroles, elle qui a déjà oublié le titre. La grande famille de la chanson. Et enfin, désolé pour Saint-Brieuc dans son ensemble, son ciel gris, son architecture ratée, ses habitants laids et incultes. Enfin, à croire ce que dit Frédéric Bellier-Garcia. Visiblement, Angers, c'est plus sympa. C'est pour dire comment ça craint à Saint-Brieuc. Ah, la grande famille de la déprime.
Merci beaucoup et merde pour ce soir.
Merci beaucoup.
Demain, Déborah François et Paul Amy seront nos invités pour L'Autre Continent, un très joli film qui sort d'ailleurs. Demain, passez une bonne journée à suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Terre.
Merci Nagui, merci les amis, à demain.